France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Je m'appelle Jonathan Mélier, je suis à 200 mètres de...
De chez moi.
De chez vous.
Oui.
En 2010, on m'a diagnostiqué une tumeur testiculaire. En 2011, on m'a fait l'ablation de ce testicule. Depuis, tout va bien. C'est fini, quoi.
Donc moi, on vient du Péra-Julien, donc j'habitais à 500 mètres à vol d'oiseau, on va dire. Donc moi, en 2012, on a découvert un lymphomoche kidien. Donc en fait, ils ont découvert ça parce que j'avais des plaques sur les jambes. Donc ils ont fait à peu près 6 mois de recherche, on a fait plein d'analyses, et à la fin, ils se sont aperçus que j'ai des ganglions au niveau de la rate et thoracique. C'était vraiment un protocole assez intense, quoi, très dur.
Marie-Claude Portin, on m'a découvert un lymphome en 2010, en février 2010.
À côté de chez vous, il y a des boules.
Ah. Je suis entourée.
Bon, je sais que c'est la première question que m'a posée l'urologue quand je l'ai vu. Si j'habitais près des vignes, tout ça, c'est la première question qu'il m'a posée.
Pesticides et vignobles en France, comment agir pour la santé de tous? Après des études scientifiques réalisées en 2021 et 2022 dans 265 zones viticoles et non viticoles, une étude nationale inédite de Santé publique France et de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a montré une surexposition des riverains de zones viticoles aux pesticides. Aussi, alors que 4% des Français vivent à moins de 200 mètres d'une parcelle viticole, il nous a paru important de revenir sur cette étude scientifique, sur le protocole mis en place, sur ce qu'elle montre, ce qu'elle préconise et sur les suites qui seront données, peut-être, on l'espère, aux conclusions et avis formulés par les deux établissements pour la santé publique et la santé environnementale. Avec nous pour en parler, trois invités. Franceline Marano, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur émérite de biologie cellulaire et toxicologie à l'Université Paris-Cité. Vous êtes également vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer, auteur du livre « Notre air est-il respirable ?» édité chez Quae, et vous êtes co-auteur de l'ouvrage « Les crises sanitaires environnementales, comment les éviter ?» un livre paru également chez Quae. Avec nous en distanciel, Sébastien Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France et ingénieur agronome de formation, je ne me trompe pas. Hein ?
Absolument.
Et avec nous également Clémentine Deremeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en épidémiologie, chargée du projet PestiRive à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France. Bien, merci à vous trois, merci aussi à nos auditeurs. Vous êtes bien dans le magazine de l'environnement de France Culture. Ce magazine est toujours en partenariat avec le journal Le Monde, préparé par Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang, Aurélie Marcet, Pierre Pinault de Lina et celle des équipes de documentation de Radio France que je salue. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Grégory Wallon.
Cette carte postale de village alsacien ne laisse rien paraître de la qualité de l'air et des sols. Et pourtant, selon les résultats de l'enquête PestiRive, les pesticides sont présents partout, dans la poussière, dans l'air, dans les urines et dans les potagers.
C'est vrai que je suis un peu inquiète quand je promène les chiens, par exemple, ou quand on se promène avec les enfants, quand on voit des pulvérisations sur les vignes.
À Wangen, les habitants sont cernés par les vignes, mais certains ne s'en inquiètent pas.
Les produits ont évolué, et les mentalités aussi. Donc non, j'ai pas peur.
Pour le moment, j'ai pas d'impact ou j'en ai jamais constaté. Donc c'est pas vraiment mon problème.
L'étude PestiRive s'est penchée sur les 56 pesticides autorisés et potentiellement utilisés pour traiter les vignes. Des produits parfois toxiques, mais nécessaires pour une production rentable.
Cette grappe n'a plus été traitée parce que quand cette grappe a poussé, il n'y avait plus de traitement sur la vigne. Et c'est pour ça qu'on voit que les grappes qui sont à ce niveau-là, elles sont toutes malades.
Donc sans traitement ?
Sans traitement, notre récolte est potentiellement confrontée à ces maladies tout au long de l'année.
Près de 2000 adultes et 750 enfants ont été interrogés. Ceux qui vivent à moins de 500 mètres d'une parcelle sont les plus touchés.
Il y a quand même une faille dans le système d'évaluation des pesticides qui devraient pour la plupart tous être retirés du marché puisqu'ils sont toxiques. En particulier, ils seront les plus dangereux pour les femmes enceintes et pour les enfants à venir.
Reportage diffusé sur France 3 Grand Est le 16 septembre 2025. Une étude Pestérive qui a fait parler d'elle. Initiée par qui et dans quel cadre? Je me tourne vers vous, hein, Sébastien Denis, peut-être dans un premier temps. Dites-nous peut-être qui a été à l'origine de cette demande.
Alors l'enquête Pestérive a été initiée par Santé publique France et l'ANSES. Du fait d'une part d'un certain nombre d'inquiétudes hein, qui se reflètent aussi dans vos reportages et prises de son sur le fait de vivre à proximité de cultures agricoles et en particulier de la viticulture, et d'autre part du fait que Santé publique France est lui-même sollicité sur ces situations. Finalement, on n'avait pas de données en vie réelle. Ça peut paraître étrange, mais concernant l'exposition des gens qui habitent à côté de cultures et en particulier de la viticulture, hein, qui, je rappelle, est une culture pérenne et pour laquelle l'habitat est fortement intriqué à la culture. Et donc, il nous paraissait absolument indispensable pour progresser dans les connaissances sur la question des expositions et pour progresser aussi dans les mesures permettant de protéger la santé des populations riveraines de ces zones-là, et aussi des viticulteurs, hein, de pouvoir dimensionner une étude telle que Pestérive, qui, comme vous l'avez rappelé dans le passage introductif, portait sur 6 régions viticoles et 256 zones viticoles.
Et donc, c'est une étude qui fait suite à des inquiétudes portées aussi par des associations, hein, comme Génération Future, par exemple, et avec un peu plus de visibilité sur ce que l'on appelle des clusters de cancers pédiatriques qui paraissent inquiétants. Franceline Marano, de votre côté, justement, Sébastien Denis nous explique qu'il n'y avait quasiment pas ou peu de données, malgré quand même ces alertes qui remontent à quelques années quand même.
Il y avait quand même des données, oui. Mais elles étaient parcellaires, et donc il fallait absolument une étude qui se fasse dans des conditions que savent développer l'ANSES et Santé publique France, pour qu'elle soit vraiment représentative de l'exposition des populations à proximité des vignes. Mais il y avait toutes les données de l'INSERM, expertise collective de l'INSERM, de 2013 tout d'abord, puis ensuite de 2021, sur donc la relation entre l'exposition aux pesticides et la santé. Et donc, à partir de plus de 5000 articles ou rapports publiés à travers le monde, donc les experts de l'INSERM avaient montré de façon très très claire la relation entre cette exposition, en particulier l'exposition des agriculteurs, des
viticulteurs. Oui, qui sont touchés, bien évidemment.
Donc l'exposition professionnelle et un certain nombre de pathologies, en partie, beaucoup des cancers, hein, mais pas seulement. Hein. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relation forte avec les lymphomes non hodgkiniens, avec les myélomes, avec le cancer de la prostate, mais aussi avec les maladies de Parkinson, les maladies neurodégénératives. Et pour les enfants, on avait aussi beaucoup de craintes, et donc ce qui apparaissait dans cette expertise collective, c'est que les femmes exposées de façon professionnelle, en particulier pendant la grossesse, donc pouvaient développer pour le fœtus ensuite un risque d'avoir un cancer, et en particulier du sang, leucémie. Hein.
Bien sûr. Clémentine de Remous, on peut se poser la question, hein, pourquoi le choix de la viticulture, il s'est fait sur quelle base?
Alors effectivement, quand on a commencé à construire cette étude pour renseigner et décrire l'exposition aux pesticides quand on vit près de cultures, la question était plus générale que la viticulture, mais on est vite arrivé au constat qu'on ne pouvait pas mener une étude dans laquelle on mesure l'exposition aux pesticides utilisés sur différentes cultures en même temps, puisque les traitements ont lieu à des périodes différentes, que les produits utilisés sont différents et que les modalités de traitement sont également différents, et qu'il aurait été difficile pour nous de faire la part de l'exposition liée à telle ou telle culture, et donc de mettre en évidence le lien entre les traitements d'une culture et l'exposition des personnes qui vivent à proximité de celle-ci.
Et donc, on a regardé la fréquence des traitements des cultures, l'intrication de la culture avec l'habitat et également l'implantation. La vigne est une culture qu'on appelle permanente, c'est-à-dire que la plantation évolue peu d'une année sur l'autre. Donc, c'est plus facile à la fois de la localiser. Et en même temps, ça veut dire que pour les personnes qui vivent à proximité des vignes, leur exposition est répétée dans le temps. Et donc, c'est un petit peu pour tous ces critères-là qu'on a identifié la viticulture, sachant que par ailleurs, comme cela a été rappelé, dès 2014-2015, on a eu plusieurs signalements dans des communes viticoles de crainte de la part des riverains, de la part concernant les traitements des pesticides et leur exposition aux pesticides, le traitement des vignes.
Et oui, tout à fait. Eh bien, je vous propose justement d'écouter ce reportage réalisé et proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine le 18 juin 2025.
L'Houmeau, au cœur d'une étude de la Ligue nationale contre le cancer de Charente-Maritime. Dans cette commune de 3000 habitants, le taux d'incidence des cancers pédiatriques est supérieur à la moyenne.
C'est quelque chose qui questionne beaucoup et qui nous touche énormément.
Alors pour tenter de comprendre pourquoi, d'ici quelques semaines, un capteur de molécules pesticides sera installé.
Cette transparence, moi je l'apprécie, parce qu'au moins on en saura peut-être un petit peu plus sur ce qu'on inhale, ce qu'on mange aussi. Donc pourquoi pas, je trouve ça bien.
Déjà présent dans d'autres secteurs comme ici à Montroy, le capteur suivra la présence d'une centaine de molécules. Atmo Nouvelle-Aquitaine, le laboratoire régional de l'air, évaluera de manière précise et concrète les pesticides présents dans l'air.
La Charente-Maritime et la CDA sont extrêmement honnêtes avec leurs administrés parce qu'ils sont extrêmement transparents et poussent ces études. Donc peut-être on est avant-gardiste et ça fait peur aux gens. J'en dis, posez-vous la question. Si vous allez sur notre territoire, même culture, même phénomène. Alors, il n'y a pas que les cultures, c'est comment aussi dans le foyer, tous les produits qu'on a dans le foyer, etc. Il faut se poser la question.
Francine Marano voulait réagir à ce reportage.
Oui, effectivement, puisque c'est le comité départemental de la Ligue nationale contre le cancer qui a donc financé l'étude, mais qui a été réalisée à partir des données du registre des cancers de Poitou-Charentes. Bon, c'est donc une observation, en fait, qui a été faite. Donc, la relation entre l'apparition de ces cancers et puis l'exposition, c'est toujours quelque chose de très très difficile à mettre en évidence. Il faut avoir l'idée que on est exposé à un grand nombre de molécules, pas seulement donc ce qu'on trouve dans l'air et à proximité de vignobles par exemple, mais aussi là d'ailleurs ça n'était pas des vignobles, c'était la plaine d'Aunis, c'était plutôt des céréales. Donc voilà, il faut être toujours très très prudent dans les conclusions qu'on tire ensuite. Donc c'est pour cela que il est programmé une grande étude pour aller beaucoup plus loin et qui est financée à la suite de Pestirive pour mieux cerner cette problématique.
Et la corrélation
entre l'exposition en particulier des enfants aux pesticides, donc leur imprégnation, et puis éventuellement l'apparition de cancer.
Alors justement, Sébastien Denis, restons sur l'étude Pestirive. J'ai relevé qu'ailleurs dans le monde, je crois qu'aux Pays-Bas et aux États-Unis, des études similaires, en tout cas se rapprochant, ont été faites, et cela vous a peut-être donné aussi des éléments de comparaison. Est-ce qu'on peut parler des méthodes justement utilisées? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir suffisamment d'éléments scientifiques et aboutir à des conclusions?
Alors tout à fait. Donc comme on l'a dit, Pestirive, c'est donc une étude d'exposition. Donc on n'a pas fait de lien là avec des pathologies. On a bien caractérisé les expositions. Je pense que c'est important par rapport aux discussions qui ont déjà eu lieu sur le plateau. Déjà, ce qui nous a permis de donner des résultats à une échelle importante, c'est donc le fait qu'on ait travaillé à l'échelle de 6 bassins viticoles, donc représentatifs de l'ensemble de la viticulture française, et en intégrant dans ces bassins 265 sites sélectionnés pour pouvoir mener cette étude.
Alors on peut mentionner,
les
6 régions peut-être, Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà.
Donc on a quasi toutes les grandes régions viticoles de France. Et donc dans chacune de ces régions, on a échantillonné 265 sites, on a intégré 265 sites. Ce qu'on a fait pour la première fois aussi dans cette enquête Pestirive, alors ça peut sembler étrange, mais en tous les cas c'est réel, c'est qu'on a fait à la fois des prélèvements environnementaux, donc dans l'air atmosphérique, dans l'air intérieur des habitats, dans les poussières des habitations, puisque ce sont des molécules qu'on va retrouver de manière ce qu'on appelle ubiquitaire, c'est-à-dire dans l'ensemble de ces compartiments. On a fait quelques prélèvements aussi dans des jardins potagers. Et en plus, on a fait des prélèvements biologiques. Donc chez les participants de l'étude, on a investigué à peu près 1946 adultes et 742 enfants, donc adultes de 18 à 79 ans et enfants de 3 à 17 ans, chez lesquels on a fait des prélèvements biologiques d'urine et de cheveux, et chez qui nous avons fait ces prélèvements environnementaux que je mentionnais plus tôt dans mon intervention.
Oui. Alors des volontaires qui vivaient pour moitié à moins de 500 mètres des vignes et l'autre moitié à plus de 1000 mètres des vignes, c'est ça ?
Absolument, parce que pour faire cette étude-là, nous avons dû constituer une population exposée, puisque l'objectif était de voir si cette population proche des vignes était plus exposée que des populations en dehors des vignes. Donc on a pris un échantillon de population dite exposée, c'est-à-dire vivant à moins de 500 mètres de la viticulture et à plus de 1 km d'autres cultures, et une autre population qui n'était pas exposée, donc qui vivait à plus de 5 km des vignes et à plus de 1 km d'autres cultures, de manière à avoir dans notre échantillon deux populations différentes à partir desquelles il serait possible de faire des comparaisons et donc de vraiment répondre à notre hypothèse que les personnes qui vivent à proximité des vignes sont effectivement plus exposées que les personnes qui vivent en dehors des vignes.
Et parallèlement, les participants ont répondu à des questionnaires hein, sur le logement, les habitudes, les modes de vie pour identifier
absolument
l'ensemble des facteurs.
Absolument, ces questionnaires. Hein, donc l'exposition aux pesticides, ce n'est pas que des traitements agricoles, ce n'est pas qu'une part qui provient des poussières ou de l'air atmosphérique. Ce sont aussi des comportements qui peuvent expliquer l'imprégnation aux pesticides, l'utilisation d'insecticides, hein, par exemple. C'est aussi des expositions professionnelles. Et donc, il est important, par le biais de ces questionnaires, d'avoir des informations en plus de ce qu'on recueille par les prélèvements pour pouvoir avoir une vision complète de l'exposition. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir à la fois la connaissance de ce qu'on mesure, mais aussi de ce qui peut induire des expositions pour la population, de manière à pouvoir faire la part relative des choses dans ces résultats sur l'exposition au regard de l'objectif qu'on s'est fixé.
Alors on peut se demander si sur le terrain ce fut facile de travailler avec tous les acteurs. Clémentine Deremeau, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la coopération de tous peut-être, et ce que vous avez pu aussi demander, ou notamment aux agriculteurs qui détiennent des calendriers aussi d'épandage, les produits utilisés, comment ça s'est passé ?
Alors oui, c'est une étude qui a mobilisé de très nombreux acteurs. Comme l'a rappelé Sébastien, c'est une étude de dimension inédite avec l'ensemble des outils utilisés pour mesurer, caractériser cette exposition. Et donc, on a préparé cette étude bien en amont du terrain d'enquête en 2021 et 2022, quand on a collecté les données. On a eu plusieurs entretiens avec des acteurs de la profession viticole pour expliquer les objectifs de l'étude et aussi avoir des informations sur les contextes agricoles dans lesquels on allait conduire l'étude, dans les sites dans lesquels on allait faire nos différentes mesures. On a aussi eu des échanges avec les maires des communes, avec les agences régionales de santé également. Et donc pour vraiment accompagner la mise en place de cette étude à l'échelle locale, puisqu'on savait qu'on était dans un contexte assez polarisé et qui pouvait potentiellement mettre en difficulté la réalisation de cette étude. Via ces échanges, on a également pu mieux comprendre les attentes des personnes qui vivent près des vignes, pour mieux connaître eux, ce qu'ils attendent comme information concernant leur exposition. Par exemple, on a pu identifier qu'il y avait des questions assez concrètes sur est-ce que le fait d'étendre son linge à l'extérieur va exposer davantage ? Est-ce que quand j'ai une piscine chez moi, est-ce que je m'expose davantage ? Et donc, c'est des questions qu'on a pu ajouter nous-mêmes dans les questionnaires et renseigner derrière pour identifier si effectivement, oui ou non, ces pratiques individuelles pouvaient avoir une influence sur une exposition. Et tout ça, on a pu aussi alimenter avec les échanges, avec les représentants d'associations de riverains. Donc voilà, c'est une étude qui a mobilisé de nombreux acteurs. Mmh. Et quand on a contacté les participants pour inclure cette étude, donc on a inclus à peu près 2000 adultes et 750 enfants, ce qu'on a noté, c'est qu'une fois qu'ils étaient convaincus de l'intérêt de participer à l'étude, ils ont suivi le protocole de façon très consciencieuse, et on leur demandait beaucoup de choses, puisque, comme l'a rappelé Sébastien, on a à la fois des questionnaires, des prélèvements d'urine, de cheveux, de poussière, d'air intérieur, voire d'aliments dans le potager. On a suivi les participants pendant 14 jours. Pour les urines, on leur demandait de collecter leurs urines un jour sur deux, de les garder au congélateur pour que nous, ensuite, on fasse une analyse sur l'ensemble de cette période de 14 jours de suivi. Et pour une partie des personnes vivant près des vignes, on les a interrogées à la fois pendant la période où les vignes sont les moins traitées, entre octobre et mars, octobre 2021 et mars 2022, et on les a réinterrogées ensuite au printemps et été 2022, au moment pendant lesquels les vignes sont les plus traitées, pour voir pour eux comment évolue leur exposition. Est-ce qu'elle est plus élevée pendant la période de traitement comparativement à la période hors traitement?
Et oui, période de traitement plus massivement, plutôt sur mars et août, hein, si j'ai bien compris. Dernier point, Clémentine de Remeau, avec vous, sur ces questions-là, est-ce que les agriculteurs donc qui sont tenus de noter ces informations et de les conserver 5 ans hein, en cas de contrôle, ils n'ont pas quand même d'obligation alors de les uniformiser et de les centraliser? Est-ce que vous avez réussi quand même à recueillir les données sur les produits utilisés, sur le rythme de traitement? Ce sont des données indispensables pour des études scientifiques.
Oui, ce sont des études indispensables pour connaître les utilisations réelles de produits phytopharmaceutiques pour le traitement des cultures. Donc les agriculteurs doivent noter les traitements qui sont réalisés. Par contre, il n'y a pas d'obligation de format. Et ces données ne sont pas rendues accessibles aux équipes de recherche ou aux agences pour mener ce type d'études. Et donc, nous, dans PestiRive, on a effectivement caractérisé les pratiques agricoles autour de chaque logement des participants pour essayer de savoir, au moment de ces 14 jours de suivi, quels étaient les produits probablement utilisés et à quelle quantité pendant ce suivi. Et pour faire ça, on a dû mobiliser énormément de données de la Banque nationale des données de vente, avec un gros travail réalisé par l'INRAE, qui nous donne en fait les données de vente de pesticides à l'année localisées aux parcelles. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir, au moment précis où on suit les participants, quels sont les produits utilisés. Et donc, on a dû utiliser des bulletins de santé des végétaux, des connaissances d'experts et aussi les informations que certains représentants de la viticulture nous ont transmis pendant la période de suivi pour essayer d'identifier, donc au moment où on suivait un participant, quelle était la substance utilisée.
D'accord.
Donc ça, c'était un travail.
Et tout le monde ne l'a pas fait, en tout cas. Oui, il y a peut-être
c'est
des données qui manquent. Hein. D'accord. Non, mais c'est important de souligner quand même cela, sans jugement, mais on sent que ce genre d'étude est très attendu par les citoyens et l'opinion publique, et que il peut y avoir aussi des craintes par ailleurs. Francine Marano, sur ces questions-là. Alors, il faut quand même préciser qu'à partir de 2026, ces données devront être numérisées et dématérialisées, mais elles ne seront toujours pas partagées dans une banque de données, ce qui est quand même très dommageable pour les études à venir aussi.
Ben, en particulier pour les études que demande forcément la population, c'est-à-dire la relation entre ces expositions et la santé, hein, c'est ça donc qui est demandé hein, vraiment de façon très forte. Donc pour cela, ça nécessite des croisements de données. Alors on a mis en place dans le cadre du dernier plan national santé environnement un protocole qui s'appelle Green Data Hub, c'est-à-dire la compilation de toutes les données environnementales pour les permettre de les croiser ensuite avec les données donc de santé. Il faudrait que pour les pesticides, ça puisse se faire vraiment, et en particulier pas seulement au niveau global, mais aussi à un niveau local, si c'est possible, et c'est forcément compliqué. Il y a un point que je voulais souligner, parce que dans ces questionnaires, il y avait donc une question qui était posée sur est-ce qu'on vous a prévenu des épandages ? Et donc j'ai été surprise, moi, de voir que...
Beaucoup
ne l'étaient pas. Or, c'est vraiment très important, parce qu'il y a des protocoles à suivre donc pour les riverains quand il y a des épandages. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument obtenir par la suite.
Nous allons y revenir dans l'émission, puisque nous en parlerons justement en matière d'avis et de conclusion de l'étude. Justement, allons vers les résultats de cette étude publiée à la rentrée 2025. Mais auparavant, je voudrais vous faire écouter ce reportage diffusé sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'était le 29 septembre 2025.
L'air, les sols, les cheveux et l'urine des riverains ont été passés à la loupe par des scientifiques à la Croix-Valmer et dans toute la région. Résultat, certains pesticides enregistrent ici les taux les plus élevés en France.
On a retrouvé des concentrations de certaines substances qui étaient plus élevées qu'ailleurs, notamment pour du phosphatidyl aluminium, pour du folpel, pour ces types de substances qui montrent qu'on avait une utilisation finalement peut-être plus importante dans ce territoire-là, mais qui a relativisé par rapport également à des conditions météorologiques qui auraient pu être particulières pendant cette campagne de prélèvement.
Des aléas météo qui pourraient expliquer l'utilisation plus importante de pesticides à certaines périodes, comme nous l'explique ce vigneron.
Ah bah là, il y a encore du raisin.
Même en bio, les événements climatiques obligent l'utilisation de fongicides.
On le fait par forte pluie ou par forte pression. Comme je vous l'ai dit, voilà, on est sur une maladie à base de champignons. Donc les champignons se développent avec un minimum de chaleur et un minimum d'humidité. Donc quand on a ces conditions qui sont réunies, donc souvent au printemps, on est en période de traitement, donc une période qui va être de début avril à fin juin pour nous en Provence.
France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Sébastien Denis, je me tourne vers vous. Alors, les résultats de cette étude, on comprend avec ces reportages que l'on vous propose aujourd'hui, à la fois les questions, les inquiétudes et puis aussi les nécessités. L'étude a montré quoi et de quel ordre de grandeur aussi ? Parce que c'est important, il y a de la nuance à apporter.
Oui, alors l'étude a permis de confirmer les hypothèses qu'on s'était posées au démarrage, c'est-à-dire que les personnes qui vivent à proximité de la viticulture et pendant les périodes de traitement sont plus exposées que des périodes qui vivent à distance de la viticulture ou de personnes qui vivent en dehors de toute zone viticole ou toute zone agricole. Ces surexpositions, donc ce qu'on appelle surexposition, concerne en particulier des populations qui sont de jeunes populations, puisqu'on a inclus dans notre étude des enfants entre 3 à 18 ans, et on a vu que des imprégnations chez les enfants étaient plus élevées que les autres populations chez les enfants de 3 à 6 ans. Donc ce sont des observations d'exposition sur des contaminants chimiques qu'on observe sur d'autres polluants. C'est-à-dire que on voit que chez les jeunes enfants, en général, on a des expositions qui sont plus élevées et ça peut s'expliquer par des comportements différents des autres populations, puisque les enfants vont être à proximité du sol, ils vont jouer avec des jouets qui sont sur les sols et donc peuvent être contaminés par des poussières. Et ils ont une masse corporelle plus faible, ce qui mécaniquement et mathématiquement induit une exposition plus importante. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on a observé aussi, ce sont des augmentations des imprégnations. Donc ça, quel que soit le compartiment, puisqu'on l'a dit, on avait des compartiments environnementaux et des compartiments biologiques, en particulier cheveux et urines. Et si on prend l'exemple des pesticides que nous avons analysés dans les urines, les différences entre les périodes de traitement et les périodes qui ne sont pas des périodes de traitement en termes d'imprégnation, on observe des augmentations entre 30 et 60% en fait des imprégnations pendant les périodes de traitement comparativement aux imprégnations qu'on a mesurées en dehors des zones de traitement. Ce qui montre donc là, ce qui est vraiment la preuve, que le traitement va engendrer là aussi une surexposition de la population et que donc il va falloir, Francine Malrano parlait de l'information des populations, certainement renforcer ce volet information. C'est pas l'autre levier, hein. Je sais qu'on en parlera dans la suite de l'émission, mais qu'en tous les cas, il y a un levier certainement qui existe autour de cette information.
Et donc par rapport aux distances, puisqu'il y a une cohorte d'habitants vivant à moins de 500 mètres et d'autres à environ 1000 mètres.
Alors ce qu'on voit, ce sont qu'effectivement les personnes qui habitent le plus proche de la vigne et de la viticulture sont plus exposées que les personnes qui habitent à distance de la vigne. Et plus on s'éloigne de la vigne, ou alors si on considère les personnes qui habitent en dehors de toute zone viticole ou de toute zone agricole, on confirme que les personnes qui habitent à proximité de la vigne sont vraiment les personnes les plus exposées. Et donc ça, quel que soit, le prélèvement qu'on considère dans ces résultats, qu'il s'agisse de prélèvement de poussière, d'air intérieur, d'air ambiant, ou de prélèvement biologique, donc ultime preuve de ce qu'on avance, c'est-à-dire que là, le contaminant a passé la barrière biologique et se retrouve présente soit dans les urines, soit dans les cheveux, et ce qui montre bien que plus on habite à proximité de la vigne, plus on est exposé. Et cette exposition, on a aussi démontré, par le biais des questionnaires et de l'examen des pratiques agricoles qu'on a fait, qu'elle dépend aussi de la quantité de substances qui est utilisée dans le traitement, c'est-à-dire plus la quantité de substances est importante, plus la personne sera également exposée à cette substance-là.
Clémentine Deremaux, vous voulez ajouter quelque chose sur les résultats? Peut-être important aussi, les auditeurs doivent se poser la question, s'il y a des doses plus importantes, où on en est peut-être des doses limites supportables, en sachant que on se retrouve aussi avec un cocktail de substances chimiques. L'effet cocktail n'est pas toujours pris en compte, mais là, il devrait l'être. Vous avez expertisé, je crois, plus de 50 substances, c'est ça?
Oui, on a recherché au total 56 substances dans au moins un des échantillons biologiques ou environnementaux, sachant qu'on a choisi des pesticides, enfin sélectionné les pesticides mesurés dans les différents compartiments environnementaux et biologiques en fonction de la faisabilité de ce que sont capables de faire les laboratoires de dosage avec lesquels on travaille. Donc au total, oui, un panorama sur 56 substances. Et comme le disait Sébastien, donc des niveaux d'imprégnation et des données de contamination plus élevées en zone viticole qu'en zone non viticole, mais également des niveaux d'imprégnation et de contamination environnementale plus élevés en période de traitement qu'en période hors traitement. Et donc, c'est vrai que dans nos différents modèles d'analyse statistique, on a essayé de préciser le plus possible cette différence entre les personnes qui vivent près des vignes ou loin de toute culture, en regardant les deux groupes séparément, puis en regardant en fonction de la distance. Et donc là, on voit que les différences sont encore accentuées pour les personnes qui sont les plus proches. Et ensuite, en regardant la surface de vigne autour des logements et cette estimation de la quantité de substances actives probablement utilisées. Et donc là, à chaque fois, effectivement, on voit ce lien avec plus la surface de vigne est importante, plus l'écart va être important entre zone viticole et non viticole, et plus la quantité de substances estimée, utilisée va être importante, plus aussi la surimprégnation va être importante. L'avantage qu'on a dans PestiRive, effectivement, c'est qu'on a mesuré chez toutes les personnes l'ensemble des pesticides qu'on a sélectionnés typiquement dans les urines. On a essayé de voir, effectivement, si on arrivait à caractériser cette co-exposition à plusieurs pesticides. On a construit un premier indicateur qui somme un petit peu toute cette charge d'exposition interne dans les urines. On voit les mêmes tendances, même si finalement ça ne donne pas d'effet de preuve, en tout cas de poids plus élevé. C'est un des axes sur lesquels on veut continuer à travailler au-delà de ces premières conclusions issues de PestiRive. C'est identifier des leviers pour mieux prendre en compte ces co-expositions dans nos études d'imprégnation qui sont menées notamment à Santé publique France. Donc effectivement, on a la possibilité de mesurer, d'avoir cette co-exposition, mais pour le moment, on n'a pas mis en évidence un effet plus fort.
Alors, il faut préciser aussi que les substances peuvent se disperser au-delà des zones traitées hein, par des phénomènes de dérive sous forme de gouttelettes hein, au moment de l'application des produits ou l'effet du vent aussi, etc. Elles s'accompagnent d'une redéposition hein, progressive des produits au sol. Tout cela, c'est à tenir compte. Et puis, bien sûr, aussi le temps. Hein. Il est à noter, je crois, que les faibles pluies et les températures élevées du printemps et de l'été 2022, période de l'étude, ont pu aussi limiter les traitements. Enfin bon, quand je dis il faut de la nuance, effectivement, il faut aussi d'autres études. Francine Marano.
Oui, donc je voulais insister sur un point, c'est il faut aussi savoir comment on fait l'évaluation de donc pour la population et pour aussi l'environnement de ces pesticides hein, pour leur autorisation de mise sur le marché. Donc au niveau européen, c'est une agence qui s'appelle l'EFSA qui fait cela sur les molécules actives, sur les matières actives et qui donne donc des autorisations ou bien qui interdit aussi ou des limitations d'autorisation avec des valeurs à ne pas dépasser. Des valeurs à ne pas dépasser, donc en particulier dans les aliments.
Oui. Hein.
Donc, mais c'est fait molécule par molécule. Ensuite, donc, au niveau de chaque pays membre de l'Union européenne, il va y avoir une évaluation qui sera faite sur les substances qui sont en fait vendues sur donc, le territoire. Hein. Et c'est en France, l'ANSES qui fait ça. Et donc, il y a, en plus de la molécule active, donc, d'autres molécules qui font que ça va pouvoir être absorbé facilement par la plante, par exemple, mm-hmm. ou bien par l'insecte oui. pour le tuer, ou bien donc, sur le champignon. Et donc, c'est tout cela qui va donc, être soumis ensuite pour de traiter les cultures. Alors, c'est fait, ça, molécule par molécule. On a peu de données sur les constituants de ces mélanges, hein, pour être clair.
Oui.
C'est souvent des secrets industriels. Et comme donc, ce sont des différents types de traitements qui sont faits, comme ça a été dit, effectivement, on arrive à des mélanges. De sorte que ces valeurs limites d'exposition qui sont fournies par les agences à ne pas dépasser dans l'air, dans les sols, dans l'eau, dans les aliments, elles peuvent en fait
associer à d'autres et à d'autres et à d'autres. On est dans le cas de ce fameux cocktail
ou donc être à l'origine effectivement de ces effets cocktails. Nous appelons ça l'exposome.
C'est ça.
Donc il faut pour bien comprendre donc ensuite l'émergence de certaines maladies, en particulier des maladies chroniques comme les maladies neurodégénératives ou des cancers. Donc il faut avoir ça en tête. Hein.
Et vous parliez de l'EFSA. J'ajoute que quand on parle de l'impact du vent, par exemple, selon générations futures. Pour les cultures basses, le modèle d'évaluation des risques conçu par l'EFSA prend en compte une vitesse maximale du vent à peu près de moins de 10 km/h. Et en France, l'épandage des pesticides est autorisé jusqu'à une vitesse de 19 km/h. On n'est pas dans les mêmes valeurs. Et cela montre quand même des différences et peut-être des failles hein, d'évaluation. Ce serait probablement le thème d'une autre émission.
Oui, d'autant plus qu'on sait que, par exemple, sur une ville comme Paris, ou en fait, toutes les grandes villes où on a fait des mesures d'exposition aux pesticides, on trouve des pesticides qui ont été utilisés parfois des dizaines, des centaines de kilomètres.
Il y a une persistance sur le temps et donc à prendre en compte bien évidemment. Sébastien Denis, je me tourne vers vous. Vous avez proposé un choix musical, le Labyrinthe de Feu Chatterton. Vous pouvez nous dire pourquoi ce choix?
Oui, alors merci d'avoir retenu ce choix. Feu Chatterton, j'y suis particulièrement sensible, et Labyrinthe est donc le nouvel album. Et Pestirive, c'était parfois un labyrinthe, donc voilà, je trouvais le titre assez approprié. Voilà, et donc c'est un grand plaisir, c'est avec un grand plaisir que j'écouterai ce morceau.
Eh bien, on l'écoute.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Le temps d'une vie, cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis, marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe.
sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Le labyrinthe de Feu Chatterton, et nous poursuivons le magazine de l'environnement de Cause à Effet sur France Culture. Nous sommes en direct avec au menu pesticides et vignobles en France, comment agir pour la santé de tous, dans le cadre des résultats de l'étude nationale inédite Pestérive menée dans 265 zones viticoles et non viticoles par Santé publique France et l'ANSES. Eh bien, nous regardons du côté de cette étude qui a étudié justement l'exposition des riverains de zones viticoles aux pesticides, et nous continuons à en parler, bien sûr, avec nos trois invités. Franceline Marano, professeure émérite de biologie cellulaire et toxicologie à l'Université Paris Cité. Sébastien Denis, directeur à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France, ingénieur agronome de formation. Et Clémentine Deremeau, docteur en épidémiologie, chargée du projet Pestirive à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France.
L'agriculteur qui arrose juste devant chez vous, vous avez déjà essayé de leur parler, d'aller vers eux ?
Non, pas spécialement. Non, parce que c'est tabou chez nous quand même.
C'est un peu difficile de leur en parler sans avoir un clash ou quoi que ce soit.
Vous avez peur qu'on vous croit pas, puis
il faut pas y toucher, je pense. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut toucher.
Enfin, si, on peut leur dire, mais ils vont continuer, c'est tout. Hein.
Contre l'agriculteur, on ne peut pas. Lui, bon, il fait son métier. On lui donne des produits pour traiter, bon, il s'en sert. On voit, des fois, quand il traite, on voit bien le produit quoi, qui passe. Qui...
Vous voyez les nappes de produits?
Ah oui, 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 ça se voit. Hein.
Vous dites quoi dans ces cas-là?
Eh ben, on rentre. On rentre et puis on attend un peu que ça se passe, qu'ils aillent plus loin, et puis voilà, quoi.
Fermer les volets ou...
Non, pas jusque-là, mais bon, bah, au moins fermer les portes, les fenêtres, bon, que ça sente pas, parce que bon, c'est les produits généralement qui sentent. Essayer de pas trop en faire inhaler à nos enfants, quoi.
Voilà, reportage publié sur Public Sénat le 29 juin 2018. On perçoit cette inquiétude, bien sûr, de la famille. Sébastien Denis, allons sur les conclusions. Quel avis a été rendu? Les agences ont élaboré un avis commun avec l'appui de leur collectif d'experts et donc ont donné des préconisations aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors en effet, les préconisations s'appuient vraiment sur les travaux de l'étude Pestirive, donc on l'aura compris, une étude très 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 large avec différents types d'échantillons environnementaux et biologiques, et qui permet d'asseoir un corpus assez robuste de recommandations, qui ont d'ailleurs été travaillées avec un certain nombre d'experts extérieurs aussi à nos deux agences pour consolider aussi ces recommandations. Et donc en priorité, hein, comme on a discuté sur les différents facteurs qui influencent l'exposition, on recommande de minimiser l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, des pesticides, au strict nécessaire. Et il existe une politique publique hein, qui s'appelle Ecophyto 2030, qui prévoit cette minimisation à la source de l'utilisation des pesticides. Et donc, on recommande de s'appuyer sur une mise en œuvre ambitieuse de cette stratégie nationale Ecophyto 2030. Donc ça, c'est vraiment pour nous la recommandation, je dirais, fondamentale, c'est la réduction à la source de l'utilisation des pesticides dans la viticulture.
Alors Sébastien Denis, vous nous parlez d'Ecophyto 30. Je vous propose justement de regarder aussi du côté de ce plan-là, et je vous propose d'écouter ce reportage diffusé dans le 19-20 de l'édition Lorraine du 10 mai 2024, et on y revient.
Réduire de 50% l'utilisation des pesticides, l'objectif est toujours le même, mais la date a changé. Le nouveau plan phytosanitaire du gouvernement annonce désormais 2030. Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle et rapporteur de la commission d'enquête sur les pesticides, dénonce des lenteurs alors qu'il y a urgence.
On sait aujourd'hui que les dégâts que font les phytos sur la biodiversité vont se payer très cher en matière de fertilité et donc de productivité à terme. On sait très bien que les dégâts que font les phytos aujourd'hui par leur mésusage, leur excès d'usage sur l'eau, vont se payer très cher dans la société. C'est une petite bombe à fragmentation dans les rapports entre le monde paysan et le reste de la société.
Février 2024, un conflit éclate entre agriculteurs au bord de l'asphyxie et le gouvernement. Un gouvernement accusé d'imposer trop de contraintes au monde paysan. S'en suivent des négociations. Et de nouveau, l'utilisation des pesticides crispe les esprits. Pour la FNSEA, on affirme qu'il ne faut pas d'interdiction sans solution. Le syndicat impose même un nouvel indicateur.
Nous sommes repartis sur un indicateur européen et nous allons au moins aussi pouvoir nous comparer aux autres pays d'Europe. Et puis aussi se rendre compte qu'il y a un moment, il faut acter un principe, c'est pas d'interdiction sans solution.
Sébastien Denis, quand on parle de Ecophyto 30, il faut voir aussi que à ce stade, cette stratégie n'a pas atteint ses objectifs initiaux de réduction de l'usage des pesticides. Il a été même mis à l'arrêt en 2024 à la suite des mobilisations agricoles. La recommandation, c'est de s'appuyer vraiment sur le plan Ecophyto 30, mais tel qu'il est, et ne pas en déroger. C'est cela. On sent qu'aujourd'hui, on n'en est pas là.
En tout cas, les résultats qu'on montre, qui encore une fois sont des résultats qui prennent le point de vue de la santé publique et de la santé des riverains de la viticulture, qui comprennent d'ailleurs des viticulteurs eux-mêmes. Donc nous, on se place d'un point de vue-là. Donc les résultats qui sont des résultats qui portent sur l'exposition, Dominique Potier l'a dit dans l'intervention, c'est dans le reportage, ça vient s'ajouter à des corpus de résultats qui portent sur la qualité des écosystèmes et l'impact des pesticides sur la qualité des écosystèmes. Franceline Marneau citait l'expertise collective de l'INSERM sur la santé humaine. Il y a une expertise collective de l'INRAE et de l'IRD sur les écosystèmes. Donc tous ces éléments-là viennent renforcer le message de Pestirif, qui est de dire il faut absolument passer par, en tout cas, il faut absolument agir sur cette recommandation essentielle qui est de minimiser l'utilisation à la source des pesticides et avoir effectivement, comme le disait l'un des intervenants agriculteurs dans le reportage, des solutions alternatives, parce qu'on peut comprendre effectivement qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain sans proposer des solutions. Maintenant, l'INRAE travaille à de nombreuses solutions alternatives à l'utilisation d'un certain nombre de produits phytosanitaires et donc c'est ensemble qu'il faut bien sûr, et dans le cadre de concertation, travailler à cette réduction et au strict nécessaire. Donc on est bien conscient aussi qu'il y a certains usages, enfin certaines cultures qui ne peuvent aujourd'hui se passer de ces produits-là. Mmh. Mais ce qui est important, c'est vraiment cette réduction à la source. Deuxième levier qui est important pour nous, si je puis continuer, c'est l'information aussi des riverains, parce qu'on a vu dans les résultats qu'il y a un certain nombre de comportements individuels, un comportement très simple, se déchausser à l'entrée de ces maisons, ça va avoir un effet sur la diminution des niveaux d'exposition, des niveaux de contamination dans les poussières intérieures, et donc des niveaux d'exposition in fine des personnes qui habitent dans le domicile. Donc ça passe par une information des riverains au préalable des traitements qui ont lieu sur les terres agricoles. Et ça se passe dans quelques régions, dans quelques zones, mais on l'a vu, et ça se passe insuffisamment. C'est-à-dire, c'est aussi dans vos reportages, des personnes qui ne sont pas suffisamment informées des périodes d'épandage. Et donc ça, c'est aussi l'information, la sensibilisation des personnes. C'est un levier absolument indispensable, qui n'est pas suffisant, puisqu'une fois de plus, c'est vraiment la réduction à la source, mais qui est indispensable pour que les gens soient sensibilisés et adoptent aussi des bons gestes pour pouvoir diminuer leurs expositions à ces produits. Donc ça, c'est un deuxième levier. Évidemment, cette action d'information, elle doit aussi avoir lieu prioritairement auprès des personnes qui vivent le plus près des vignes. Et ça aussi, c'est un des enseignements de Pestirive, où on a vu que les personnes qui habitaient le plus proche des cultures et de la viticulture étaient les personnes les plus concernées par ces expositions et ces surimprégnations. Dernier levier, c'est la poursuite des travaux de recherche. Peut-être qu'on en parlera, parce qu'on a vu que donc on a beaucoup d'éléments. Donc, il ne faut pas attendre de nouveaux travaux de recherche ou de nouveaux éléments portant sur la causalité pour agir. Il faut vraiment utiliser toutes les données qu'on a pour agir. D'où les recommandations que je viens de rappeler. Mais néanmoins, il existe encore, et vous l'avez abordé par le biais de vos questions, sur les effets cocktails, par exemple. Je pense que c'est absolument crucial, d'autant plus qu'on va aller vers l'explication de certaines pathologies. Donc, Pestirive, encore une fois, ne le permet pas. Mais prendre en compte l'effet cocktail, c'est absolument indispensable quand on veut expliquer des maladies neurodégénératives, par exemple, ou des cancers, qui ne sont pas la résultante de l'exposition à une seule molécule. C'est bien la résultante un cocktail de molécules, voire à des interactions entre ces cocktails de molécules et d'autres facteurs, des facteurs génétiques, des facteurs comportementaux. Et donc là, il est absolument indispensable aussi, si on veut progresser sur ces questions-là, et donc si on veut répondre aux préoccupations des riverains et aux enjeux de santé publique que posent ces questions, il est absolument essentiel de consolider, renforcer les programmes de recherche qui travaille à solutionner ces questions-là qui sont éminemment complexes. Hein. C'est près de 30 années de recherche au niveau européen aussi pour comprendre les effets cocktails. On voit qu'on n'y est pas encore. Et enfin, ça, Clémentine l'a dit et l'a rencontré au travers de son enquête et du terrain, c'est la mise à disposition des données réelles d'utilisation des produits phytosanitaires pour pouvoir progresser aussi sur la connaissance des usages réels. Et donc, on est bien sur la vie réelle, hein, c'est-à-dire Pestirix, ça contribue à avoir des données d'exposition en vie réelle, mais il faut qu'on puisse aussi avoir les données d'usage en vie réelle, sinon on ne progressera pas non plus davantage.
Francine Marano, il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi. On a parlé de cette donc notion d'exposome, l'effet cocktail. Il faut aussi préciser que naturellement, tous, nous ne sommes pas égaux devant les agressions extérieures, les maladies, et que nos systèmes de défense immunitaire ne sont pas les mêmes, et que certains sont plus fragiles que d'autres. Et cela aussi doit rentrer quand même dans les considérations quand on parle de dose, parce qu'il n'y a pas une dose pour telle ou telle personne, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout ce travail à mener. Bien sûr, je vous laisse réagir sur les préconisations, les avis qui ont été émis.
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a des populations qui sont plus sensibles que d'autres. Et en particulier, dans les études qui ont été réalisées sur l'exposome, pour tous les polluants, et les polluants chimiques en particulier, donc montrent qu'il y a des fenêtres d'exposition qui sont plus à prendre en considération que d'autres. Et les fenêtres qui sont vraiment les plus importantes, c'est la femme enceinte, les aussi... Donc les parents, les futurs parents, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de procréer, mais pas seulement les femmes, les hommes également. On sait qu'il y a des effets sur les spermatozoïdes, donc et sur la diminution, par exemple, des spermatozoïdes des pesticides. Donc les personnes en âge de procréer, les femmes enceintes, en particulier la première période de vie du fœtus, c'est-à-dire les 3 premiers mois, et puis ensuite, ce qu'on appelle, nous, les 1000 jours, c'est-à-dire toute donc la période d'exposition du tout jeune bébé et enfant, qui sont vraiment cruciales. Parce que, en fait, on sait que des modifications qui peuvent se produire non seulement sur le génome lui-même, c'est-à-dire l'ADN avec des mutations, mais aussi l'environnement du génome, ça va avoir des effets des années plus tard. C'est pas immédiat. Oui. Ça, donc les maladies chroniques dont on voit l'augmentation actuellement, le fait qu'on trouve chez les jeunes actuellement des cancers, que je pense au cancer du sein chez les jeunes femmes, le cancer du pancréas aussi qui a augmenté de façon tout à fait importante, on se pose réellement la question de ces expositions qui ont pu se faire bien avant et qu'il faut absolument diminuer. D'où toutes les préconisations qui ont été évoquées par ces Sébastien.
Alors, parmi les préconisations,
il faut diminuer absolument l'utilisation des pesticides.
Oui, ça c'est le premier avis, le plus important, intervenir sur la source même des contaminations, aussi sur l'utilisation les méthodes, les pratiques culturales, utiliser les alternatives aux pesticides quand on le peut. Il faut quand même rappeler aussi que 20% des vignobles en France sont bio, donc il y a aussi une progression de ce côté-là. Et puis trouver des méthodes de pulvérisation plus efficace, tenir compte du vent, etc. Des pratiques aussi avoir des pratiques qui réduisent les dispersions, en herbage, charruage, planter des haies. Voilà, on peut aussi rappeler ces préconisations. Alors, il est quand même recommandé aux riverains de se déchausser, certes, de nettoyer les logements régulièrement, d'éplucher tous les fruits et les légumes, de limiter la consommation d'œufs de leur poulailler, de faire sécher le linge à l'intérieur des maisons, de disposer d'une VMC, etc. On voit quand même que ce sont de telles contraintes de vie. Est-ce que ce n'est pas d'abord une priorité aussi aux politiques en priorité d'agir pour faire en sorte que chacun puisse vivre plus sereinement, et y compris les familles d'agriculteurs, il faut y penser, ils sont eux-mêmes exposés.
Ce sont les premiers qui sont exposés. On a montré d'ailleurs tout à fait récemment que les combinaisons qu'ils pensaient donc les protéger hein, quand ils font des épandages, eh bien pour une partie d'entre elles laissent passer en fait les molécules et que ça s'accumule entre le tissu de la combinaison et la peau et au contraire il y a une surexposition. Donc ce sont les premiers qu'il faut convaincre de diminuer ces expositions. Alors vous avez raison, donc il y a de l'information à faire. Hein. Et alors, il faut aussi considérer que entre les riverains et les agriculteurs, il faut réussir à se parler. Donc il y a des actions qui se mènent actuellement. Je pense à une action là dont j'ai entendu parler tout à fait récemment, hein, qui se fait donc dans la région de Toulouse, hein, avec la communauté de communes de Sicoval, et qui donc où il y a cette problématique donc des riverains de vignes et puis de cultures, donc de exposition aux pesticides. Ils ont réussi à constituer une task force, c'est comme ça qu'ils l'appellent, entre les riverains et les agriculteurs pour qu'ils puissent se parler. Parce qu'il y avait des relations qui étaient devenues ultra conflictuelles. Donc, pour faire en sorte que un programme commun puisse se développer, pour faire baisser justement toutes ces expositions, eh bien, donc, il faut aussi passer par là, que le dialogue puisse donc opérer et que chacun puisse comprendre les contraintes de l'autre. Parce que bien sûr, les agriculteurs, on sait qu'ils ont des difficultés actuellement et qu'il y a des fois où ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je voudrais dire
les
quand
aider,
même,
en tout cas, à basculer vers une autre agriculture aussi.
Là, des 50% de diminution sur l'utilisation des pesticides, c'est une préconisation que nous avions donnée, parce que je faisais partie des participants du Grenelle de l'environnement, eh bien, nous l'avions donné il y a plus de 15 ans. Et on en est toujours au même stade. Oui. Par contre, ce qui montre que les politiques publiques peuvent servir sur la pollution de l'air, où nous avions aussi donné des préconisations très fortes pour la diminution, on a réussi à diminuer de façon tout à fait importante la pollution donc atmosphérique, en particulier des dioxydes de carbone et des particules. Mais il y a eu une prise de conscience au niveau de l'Europe. Et s'il n'y a pas de position européenne un peu globale sur ces questions-là, on n'arrivera pas à s'en sortir.
Vous parliez de ceux qui peuvent devenir aussi des alerteurs ou porter le message, aider à faire en sorte que les différentes parties travaillent ensemble. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un agriculteur, justement, diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté le 11 février 2025.
À Achin, Pierre Delobe a lui aussi contracté un cancer de la prostate après une carrière à produire agneaux et céréales.
J'étais pas un grand consommateur non plus de ça, mais je veux dire, on y a tous participé, quoi. Le blé est malade, bon, allez, technicien passé, je te vends le produit. Ça roulait, quoi. Jusqu'au moment où il commence à y avoir des symptômes. Mais il faut du temps, parce que...
Aujourd'hui engagé dans l'association Solidarité Paysan, il veut avant tout témoigner.
Il y en a plein qui continuent de traiter, mais ils vont subir quelque chose aussi. Je ne fais pas ça que pour l'argent, c'est pas ça. Mais pour faire connaître le réel danger.
Petit à petit, la parole se libère dans le monde agricole. Une prise de conscience sur la nocivité de produits dont les agriculteurs eux-mêmes sont les premières victimes.
Clémentine de Remous, je vous laisse la parole peut-être. Vous avez écouté ce témoignage, effectivement, co-construire peut-être les prochains travaux impliqués, voire plus d'agriculteurs, de viticulteurs impliqués. Ce serait plus facile, hein, on imagine, pour vous. On n'a pas parlé aussi de Santé publique France qui a préconisé d'instaurer une distance de précaution avec les habitations et de repenser l'urbanisation dans les zones viticoles. Hein, aussi, tout cela participe à l'amélioration à envisager.
Effectivement, nos recommandations, elles vont dans une idée de co-bénéfice à la fois pour les riverains et les agriculteurs, comme vous l'avez rappelé, qui sont les premiers concernés par ces expositions aux pesticides. Et c'est vrai que dans toute la conduite de cette étude, que ça soit, on a fait une étude pilote pour tester le protocole et l'étude à grande échelle, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un besoin de d'échanges entre les agriculteurs et les riverains pour à la fois, on l'a dit à plusieurs reprises, être bien informé des moments où ont lieu les traitements et que les agriculteurs puissent expliquer aussi leurs pratiques
tout
et ce qu'ils font réellement dans les champs.
Merci.
Et c'est quelque chose à creuser, effectivement.
Merci Clémentine Deremeau. On arrive au terme de cette émission. On pourrait en faire une deuxième, bien évidemment. Principe de précaution aussi, c'est un autre sujet, mais il rentre complètement sur le thème. Merci à tous les trois. Sébastien Denis, Clémentine Deremeau, Franceline Marano, je rappelle vos livres, « Un autre air est-il respirable ?» et « Les crises sanitaires environnementales, comment les éviter ?» paru chez Coyer. Et puis bien sûr, toutes les informations sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet.